Vous écoutez RTL.
7h46, vous recevez Marine Le Pen, Olivier Mazerolle, présidente du Front National.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
On vous attend dans le combat politique qui est très fort en ce moment en France et vous allez à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n'est pas vraiment au cœur de la mêlée. Vous devenez bucolique ?
Non, je suis au centre du combat politique. Je suis avec les Français, je vais les rencontrer. J'ai voulu m'extraire du buzz, de la polémique permanente pour m'attacher aux questionnements de fond qui sont justement les préoccupations essentielles des Français. Je vais à Saint-Pierre-et-Miquelon parce que d'abord je suis extrêmement attachée à notre Outre-mer et que je note quand même par toute une série de sujets que le gouvernement est en train de désarimer l'Outre-mer de la France et moi je veux arrimer l'Outre-mer à la France. L'Outre-mer c'est un bijou, un joyau de la France qui est complètement oublié. J'ai d'ailleurs été très choquée de voir par exemple François Hollande aller se recueillir sur la tombe d'un leader indépendantiste polynésien. Il y a des sujets très importants. La Guadeloupe, c'est tout de même le record de France de l'insécurité. À Mayotte, il y a 50% de Comoriens dont 2/3 sont en situation irrégulière et de cela personne ne parle jamais. Alors voilà, moi je suis comme le Guadeloupéen Maximin, je ne veux pas que l'Outre-mer soit la seule région de France où l'on se demande combien ça coûte et si ça rapporte.
On revient en métropole quand même parce qu'il y a des questions d'actualité. Aujourd'hui il va y avoir des manifestations de jeunes contre la loi El Khomri, vous les approuvez ?
Oui, mais je n'ai pas à approuver ou désapprouver des manifestations. C'est un exercice dans une démocratie. La vraie question de fond, c'est la loi El Khomri en elle-même. Moi, je considère que cette loi El Khomri, d'abord, il y a un sujet dans cette loi dont personne ne parle, qui est passé sous silence. C'est l'autorisation des revendications communautaristes dans l'entreprise. C'est extrêmement grave, car on attendait du gouvernement précisément de répondre à ces chefs d'entreprise qui sont confrontés à l'augmentation spectaculaire de ces revendications communautaristes dans l'entreprise pour qu'ils puissent se servir de la laïcité et protéger l'entreprise du conflit. Or, c'est exactement l'inverse que fait la loi El Khomri. Elle justifie, elle légalise en réalité les revendications communautaristes dans l'entreprise. On n'a pas fini d'en entendre parler et les chefs d'entreprise, croyez-moi, vont avoir de lourdes difficultés.
Ceux qui manifestent contre cette loi parce que, disent-ils, elle ne nous permet pas d'avoir la sécurité de l'emploi. Pourtant, ce qu'elle propose, ça marche en Italie et en Allemagne. Vous avez, vous, une recette contre l'insécurité professionnelle ?
Oui. Non, mais vous voyez bien que cette loi El Khomri, en réalité, c'est pas la feuille de route du gouvernement, c'est la feuille de route de Bruxelles. Ça fait des mois, et nous le savons tous, des années même, que Bruxelles exige la précarisation du travail, la dérégulation, qu'on appelle la dérégulation du travail.
Les Italiens le font.
Donc, comme ils sont incapables de créer de la richesse, comme ils sont donc incapables de créer de l'emploi, eh bien, leur seul moyen, c'est de déréguler le travail.
Mais vous avez une solution ?
Oui, mais moi, j'ai une solution, oui. Nonobstant les solutions macroéconomiques, je crois que pour les très petites entreprises et les PME, qui sont d'ailleurs tout à fait exclus du bénéfice quelconque, d'ailleurs, de cette réflexion sur le travail, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, la simplification administrative. Moi, j'avais proposé pour les très petites entreprises la mise en œuvre d'une forme de chèque-emploi, comme il y a le chèque-emploi-service, pour limiter les problématiques administratives. Non seulement on ne le fait pas, mais on aggrave la situation, puisque je crois même qu'ils ont parlé d'une mesure qui était la fiche pénibilité individuelle et quotidienne. Vous imaginez, ça fait l'équivalent de 10 000 fiches pour un salarié sur une carrière. Mais comment voulez-vous que les entreprises puissent faire face à une aggravation aussi lourde de l'administratif? Deuxièmement, il y avait les délais de paiement, qui sont un vrai problème pour les TPE et les PME. Là, on aurait pu agir pour leur permettre d'avoir la trésorerie qu'ils méritent d'ailleurs, puisque le travail a été fait. L'accès au crédit. Rien n'est fait pour permettre l'accès au crédit, alors qu'on sait que le crédit se raréfie, les banques ne prêtent plus d'argent aux TPE et PME. La directive détachement des travailleurs, voilà une action immédiate dont on a vu que son application de cette directive a eu des conséquences catastrophique, elle met en place une véritable préférence étrangère à l'emploi. Et là non plus, rien n'est fait. La concurrence déloyale, l'impôt progressif, voilà une de mes idées que je défends depuis longtemps, l'impôt progressif pour les entreprises, pour l'IS, qui permet aux petites entreprises de payer moins d'impôts et aux grandes entreprises de payer ce qu'on leur demande, alors qu'aujourd'hui, elles font de l'optimisation
voilà
fiscale
vos solutions.
À tout va.
Bien, alors maintenant, il y a un autre sujet aujourd'hui très important, un sommet européen. Est-ce qu'il faut céder à la Turquie les contreparties qu'elle exige pour contrôler les réfugiés syriens qui arrivent sur son sol ?
C'est le chantage. Voilà, le chantage de la Turquie. Nous nous sommes tellement affaiblis en supprimant nos frontières que nous nous sommes soumis en réalité au chantage de la Turquie. La Turquie réclame 6 milliards d'euros, la libéralisation totale des visas pour les Turcs, pour leur permettre de venir dans l'Union européenne comme bon leur semble. Et évidemment, l'accélération de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Alors, j'en veux beaucoup, évidemment, aux différents gouvernements successifs, parce que c'est parce qu'ils nous ont affaiblis qu'aujourd'hui, la Turquie se permet ce chantage.
Mais le retour des frontières nationales, ça veut dire qu'on laisse les Grecs et les Italiens se débrouiller tout seuls, et on sait très bien que les réfugiés viendront ensuite chez nous.
Non, je suis désolée, mais... Avoir des frontières nationales n'interdit pas d'avoir des opérations de coopération internationale depuis maintenant des années. En 2011, j'étais allée à Lampedusa pour proposer que précisément les marines d'un certain nombre de pays, je pensais à l'Espagne, je pensais à la France, je pensais à l'Italie, puissent arraisonner les bateaux de migrants pour mettre en sécurité les migrants, mais non pas pour les amener sur les rives de l'Union européenne, mais pour les ramener dans leur pays d'origine où on aurait pu, avec le Haut Commissariat chargé de cela, financer des campements humanitaires.
Sur les côtes syriennes, c'est compliqué. Hein.
Non, c'est pas compliqué, pour peu qu'on accepte de parler à la Syrie. Il est évident que si on mène la guerre à la Syrie et au gouvernement syrien, on ne peut pas le faire. Mais je pense que mener cette guerre a été une erreur. Couper les relations avec la Syrie a été une erreur. D'ailleurs, je crois que François Hollande est en train de changer d'avis. Mais c'est toujours trop tard. On s'aperçoit qu'on a commis des erreurs trop tard. Or, on n'a pas fait cela et on se retrouve... On s'est retrouvé l'année dernière avec 1,5 million de migrants dans l'Union européenne. Les prévisions sont de 3 à 5 millions pour cette année.
Madame Le Pen, la question des migrants a fait monter l'AFD en Allemagne, un parti dont vous félicitez de la percée. Néanmoins, ce parti réclame la sortie de l'euro pour avoir une monnaie forte, pour ressusciter la zone marque. Donc on voit bien là... La volonté de défendre les intérêts allemands, on voit bien les limites des préférences nationales chez certains. Vous défendrez la préférence nationale française, c'est le chaos. C'est la confrontation fiscale, budgétaire, économique entre nations.
Ah bon, c'est pas le chaos en ce moment ?
Ça marche pas très fort, c'est vrai, mais avant c'était encore pire.
Je crois pas du tout, moi. Moi, je suis pas choqué de voir les Allemands défendre les intérêts allemands. Là où je suis choqué, c'est quand les gouvernements français défendent les intérêts allemands et ne défendent pas les intérêts français. C'est ça qui me pose un problème. Vous voyez bien que Madame Merkel, qui est une véritable catastrophe, honnêtement, pour l'Union européenne, elle est appréciée en Allemagne, soit, quoique je crois que c'est en train de changer, mais l'Allemagne fait n'importe quoi, Monsieur Mazerolle. L'Allemagne a fait n'importe quoi. Elle a fait n'importe quoi en matière économique, elle a fait n'importe quoi en matière d'immigration.
Il n'y aura pas la confrontation des nations
Monsieur Sarkozy et M. Hollande suivent aveuglément Mme Merkel. Aveuglément. Eh bien, on vit aujourd'hui la catastrophe que nous vivons. Pourquoi ? Parce que quand Mme Merkel ouvre grand les bras aux migrants, il faut comprendre qu'à partir du moment où les migrants sont en Allemagne, il n'y a plus de frontières intérieures, ils peuvent venir.
Moi, je vous parle de la défense des intérêts économiques allemands.
Mais d'accord, mais l'intérêt de l'Allemagne, c'est d'avoir un euro fort. Ce n'est pas l'intérêt de la France.
Donc, il y aura une confrontation.
Moi, je vois beaucoup de bénéfices. Mais il n'y a pas de confrontation. Il y a eu un serpent monétaire européen. Ça marchait plutôt pas mal. Tout le monde pouvait défendre ses intérêts nationaux. Aujourd'hui, c'est le chaos. Aujourd'hui, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est le conflit entre les nations. Aujourd'hui, les nations s'insultent. Je crois que ceux qui nous ont vendu l'Europe, c'est la paix, se sont lourdement trompés. L'Union européenne, aujourd'hui, c'est la guerre économique, c'est la guerre des postures.
Vous allez répondre tout à l'heure aux questions des auditeurs. Dernière question. Vous voulez la France apaisée. Votre nièce à Milan, cette nuit, a dit, moi, le mariage homosexuel, elle ressuscite la bagarre autour du mariage homosexuel en disant, il encourage la polygamie. Où est la France apaisée ?
Et ce débat, je crois, honnêtement, on y a passé énormément de temps hein, sur le mariage homosexuel. Tout le monde a dit
ce qu'il avait à dire.
En l'occurrence, l'Italie est aujourd'hui en débat sur ce sujet, puisqu'ils sont en train de discuter un projet de loi. Mais je crois qu'en France, c'est bon, je crois qu'on a vraiment dit tout ce qu'on avait à dire. Nous avons dit ce que nous avions à dire, que nous étions opposés au mariage, mais que nous étions pour un travail autour d'un Pax amélioré, parce qu'il y a des revendications auxquelles il faut répondre, de transmission du patrimoine, de maintien dans les lieux pour les couples homosexuels.
Mais sur le fond, vous êtes en désaccord avec ce qu'a dit votre nièce ?
Non, mais c'est pas le problème d'être en désaccord. Encore une fois, le débat d'idées permet de dire ce qu'on a envie de dire.
Bon, le mariage homosexuel ouvre-t-il la voie à la reconnaissance de la polygamie ?
Non, mais je crois qu'on est très très loin, honnêtement, de la reconnaissance de la polygamie dans notre pays. Dieu merci.
Vous venez de me répondre.
Il y a encore des débats qui existent, auxquels il faut être attentif. C'est la PMA, c'est la gestation pour autrui, pour lequel moi je suis effectivement extrêmement opposée.
Marine Le Pen, vous restez avec nous puisqu'à partir de 8h15, comme vient de le rappeler Olivier Mazerolles, vous dialoguerez avec les auditeurs d'RTL qui peuvent d'ores et déjà vous appeler et vous questionner au 3210.